Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, on discute guerre en Ukraine. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. On va discuter avec David Dubé, le chercheur en résidence à la chaire Raoul d'Endurance sur les questions de la Russie, des rapports entre la Russie et l'Occident et surtout les États-Unis, de la guerre en Ukraine. Bonjour David.
Salut.
Donc je rappelle que tu es étudiant maintenant au doctorat en sciences politiques à l'Université de McGill. Tu es chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire Raoul d'Endurance et chercheur émergent au réseau d'analyse stratégique de l'Université du Québec à Montréal. Avec toi David, on va un peu revenir sur la guerre en Ukraine, faire une sorte de round-up de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines en plein cœur de la contre-offensive, alors que le pont de Kerch, le pont qui relie la Crimée à la Russie continentale, a été partiellement détruit, un pont qui aurait dû être remis en service en 2 jours. C'est comme l'opération spéciale qui devrait durer 3. Pour l'instant, la remise en service de 2 jours dure depuis plus d'une semaine. Donc ça va être intéressant de pouvoir un peu discuter de tout ça avec toi pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe en ce moment. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est la situation sur le terrain. On voit principalement une contre-offensive assez impressionnante des forces ukrainiennes dans l'est du pays, une contre-offensive qui semble s'accélérer alors que les forces de l'armée d'Ukraine sont en approche de Donetsk et en approche de Luhansk. À partir de là, c'est où en est vraiment cette contre-offensive ?
Excellente question, parce qu'effectivement, la contre-offensive ukrainienne dans l'Est a été relativement impressionnante. C'est-à-dire qu'elle nous a impressionnés de notre côté, mais elle a dû impressionner Moscou et le Kremlin aussi, parce que, surtout si on commence dans le nord-est du pays, si on veut, à partir de Kharkiv, et puis les troupes ukrainiennes, en un mois, ont pratiquement avancé de Kharkiv jusqu'à Severodonetsk, qui est vraiment très proche de la région de Lugansk et de la région de Donetsk. Donc, c'est très impressionnant, évidemment. On a des troupes qui sont beaucoup plus motivées, qui sont bien armées, qui sont bien équipées, qui ont de l'expérience de combat contre des troupes russes qui sont mal équipées, qui n'ont pas nécessairement d'expérience de combat, puis qui ont le moral à terre, finalement.
Et moral à terre, je voyais un peu, je ne sais pas si tu as pu voir ce genre de choses, je voyais un peu sur Twitter, après on ne sait jamais qu'est-ce que c'est, mais selon des informateurs de l'armée ukrainienne, on a quand même eu des rébellions proche de Severodonetsk de différentes unités ukrainiennes qui en sont même allés à tuer leur major qui s'occupe de leur unité, qui leur demandait de pousser l'offensive pour contrer la contre-offensive ukrainienne. Et ces derniers ont préféré tuer leur major pour désobéir et ensuite se rendre à l'armée ukrainienne. Donc c'est l'exemple parfait de morale russe à zéro.
Ben oui, de toute façon, on voit les fameuses vidéos TikTok, Instagram, Twitter qui sortent de soldats russes qui se rendent, de soldats russes qui se font nourrir ou qui se font traiter un peu aux petits oignons par la population ukrainienne parce qu'ils ont décidé de déserter. Donc ça aussi, c'est peut-être d'une certaine façon une visualisation de cette démoralisation. Puis si on veut, il y a des bonnes chances que ça s'en vienne aussi dans le sud-est, là, quand c'est on parle de Kherson, de la Crimée, puis d'aller peut-être jusqu'à Mariupol. Là, évidemment, on extrapole, parce que les troupes ukrainiennes avancent assez fortement, mais à pas de tortue en même temps vers Kherson. C'est difficile, c'est très fortifié.
C'est très miné.
Oui, exact. Et puis les Russes ont quand même une bonne ligne d'approvisionnement, puisque Kherson, c'est la porte d'entrée vers la péninsule de la Crimée.
C'est ça.
C'est connecté à la Russie. Bon, c'était connecté jusqu'à il y a quelques jours, parce que le pont de Kerch est un petit peu moins connecté aujourd'hui, mais tout de même, c'est...
Je voyais un peu la ligne d'attente, le temps d'attente pour que des camions traversent le pont. On est rendu à 4 jours. La Russie avait annoncé que 2 jours après la bombe, le pont était pleinement opérationnel. Donc là aussi, c'est encore un échec de la propagande russe depuis le début du conflit. Mais au niveau du sud, on voit même aussi des bombardements ukrainiens qui commencent de plus en plus à être forts sur la région de Mélitopol. Mélitopol qui avait été une des premières grandes villes du sud à être capturée par l'armée russe et qui est aussi un point de convergence pour les lignes de ravitaillement dans l'est, dans la nouvelle Russie, telle qu'est la Novorossiya, telle qu'elle est appelée par les propagandistes russes. Donc ça montre. Est-ce que la Russie, pour toi, quand on voit la situation dans l'est et dans le sud, va pouvoir réussir à monter une défense efficace à l'approche de l'hiver, vu que l'Ukraine attaque à ce point-là et en plus obtient maintenant des nouveaux armements, des nouveaux systèmes de défense et est bien mieux équipée pour commencer l'hiver?
Évidemment, c'est une question stratégique super importante. C'est-à-dire que la Russie doit idéalement fortifier davantage qu'elle a au sud, parce que son fameux pont terrestre, c'est ce qui nous permet de connecter le Donbass à la Crimée, puis d'avoir cet avantage stratégique-là. C'est évidemment plus important que Kharkiv, même si Kharkiv, c'est la deuxième ville en importance. Bon, la population, c'est bien, mais on n'est pas capable de la contrôler. On l'a vu, les Russes sont pas capables de contrôler les régions pro-ukrainiennes. Même s'ils occupent le territoire, ben il y a des rébellions, les gens quittent. Donc, à quoi ça sert si on doit tout bombarder que d'occuper ces territoires-là? Et puis, c'est un peu la même chose là au sud. Si on est incapable de s'approvisionner correctement, ça prend 4 jours pour faire traverser un camion et qu'on doit passer par un traversier, ça rallonge ça parce que l'Ukraine, de leur côté, eux, les lignes ne sont pas coupées. Ils sont approvisionnés encore plus avec du meilleur équipement. Puis Volodymyr Zelensky a fait une demande qui semble être reçue positivement par Washington pour avoir davantage d'armement anti-aérien puis anti-missiles, en fait, parce qu'ils ont réussi à arrêter pratiquement de la moitié des frappes de missiles.
Du début de semaine, oui.
Oui, exactement. Donc, avec plus d'équipement, ben, il y a potentiellement plus de chances pour pouvoir ralentir ces attaques de missiles-là de la part de la Russie.
Et surtout, là, hier a été annoncé, Emmanuel Macron avait une interview à la télé française avec la chaîne France 2, où il expliquait qu'il va envoyer les canons d'artillerie César, un grand don de camions d'artillerie César à l'Ukraine. Ces camions d'artillerie sont utilisés depuis quelques semaines sur les lignes ukrainiennes pour permettre de pousser les contre-offensives, et ce sont de la contre-offensive ukrainienne, et ces canons ont permis aussi à l'Ukraine de commencer la grande percée qui est en cours sur Kherson la semaine dernière en pilonnant de manière intensive les lignes fortifiées russes. Donc avoir ce genre d'éléments peut permettre à l'Ukraine, dans le cadre de la contre-offensive, de pouvoir reprendre le contrôle de son territoire. Et c'est le genre d'armement que l'Occident préfère donner, car plus c'est des armements qui permettraient d'attaquer le territoire russe, et on ne veut pas aller jusque-là pour le moment.
Tout à fait, il y a toujours ce risque-là, évidemment. Là, on se rappelle, là, Vladimir Poutine avait été un petit peu fâché, c'est-à-dire quand la Crimée avait commencé à recevoir des bombes, des tirs. Puis on avait même vu sur Twitter des Ukrainiens dire à leur ancien président, Viktor Yanukovych, tu sais, si nos missiles se rendent jusqu'en Crimée, ça pourrait se rendre jusqu'à Rostov-sur-le-Don, alors peut-être faire attention à toi, parce que c'était exilé dans cette région-là qui est pas très loin de la Crimée, d'un point de vue géographique. Donc évidemment, ça avait emmené une certaine hausse des tensions de Vladimir Poutine, dire bon, ça c'est de l'équipement de l'Occident qui vous permet de faire ça. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas impliqué, vous êtes impliqué dans le conflit. Puis on le voit dans les derniers jours, les dernières semaines, il y a une certaine escalade des tensions, de la violence. La Russie lance des missiles, mais c'est pas vraiment stratégique d'un point de vue stratégique. C'est pour faire peur. Exactement. La vie à Kiev était revenue relativement dans un contexte de guerre, évidemment. À la normale, on pouvait faire ces choses. On manquait plus nécessairement d'électricité et tout. Et puis, on est revenu à l'étape où vous fermez vos lumières, cachez-vous dans un bunker, cachez-vous en dessous d'une table ou quelque chose, parce qu'il y a les alarmes, les tirs de missiles. Et on ne sait pas si ça va frapper le Parlement, une université, une garderie ou bien au milieu de la route.
Oui, et au niveau de la mobilisation, au niveau de l'escalade, on voit un peu une sorte, à la suite de ces tirs de missiles, une sorte de contentement, même de joie dans les médias de propagande russe et dans les différents milieux guerriers de l'opinion russe, tels les Kadyrov et autres personnes qui sont à la droite de Vladimir Poutine. Et ça permet un peu de discuter de quelle est l'influence de ces personnes et aussi de ces médias, parce qu'on en parle peu dans les médias francophones, les médias américains, mais par exemple, je prends l'exemple du Daily Beast ou de CNN, qui fait une sorte de veille des médias russes pour un peu analyser quel est le discours public qui est vendu aux Russes sur cette invasion. Quelle est un peu cette influence dans le cadre de la propagande en cours, parce que la Russie perd en ce moment énormément de terrain, hein, en plein échec pour sa guerre, mais à côté, on vend la violence comme une joie, comme à célébrer face à la population ukrainienne. Donc, quelle est un peu l'influence de tout ça?
Évidemment, avant la guerre, c'était quand même plus efficace. Il y avait plus de raisons pour la population russe de croire leur État, de croire le président. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que l'influence, visiblement, n'allait pas très bien. C'était relativement négatif parce qu'on a dû faire, entre guillemets, des crackdowns sur la liberté de presse, sur des journalistes, expulser des gens. Donc, on a vraiment dû miner cette diversité journalistique pour être certain que, ultimement, c'est nos 22 chaînes de nouvelles, puis nos 22 politiciens pro-Russie qui vont sortir dans les médias, puis qui vont pousser le... Donc ça, ça peut parler
officiel.
Un peu sur le... Exact, ça peut parler sur les difficultés d'aller motiver la population, ou du moins cette anticipation de voir une difficulté, parce qu'on le voit avec la mobilisation. Les images que la Russie nous envoie, c'est bon, des gens qui dansent, qui sont heureux d'aller en Ukraine. Évidemment, on reçoit l'autre image, mais puis c'est des gens qui se sauvent littéralement à la frontière. On a un exode des hommes en âge de combattre, après l'exode des journalistes, après l'exode des jeunes, après l'exode des riches.
Ouais.
Donc,
et juste pour remettre en contexte pour nos auditeurs, si je sais pas, tu me diras si c'est correct ou si j'y vais un peu trop loin sur les chiffres, mais rien que pour le Kazakhstan, c'est 300 000 à 500 000 personnes qui ont en âge de mobilisation, qui ont fui par la frontière kazakh. Il y en a eu énormément par la frontière géorgienne, énormément par la frontière finlandaise. Il y en a même qui sont allés jusqu'en Mongolie pour prendre un avion à Oulan-Bator pour pouvoir partir le plus loin possible de la Russie. 200 000 personnes à la frontière mongolienne. C'est plus de 700 000 personnes en moins d'un mois qui ont encore fui la Russie, en plus des millions de jeunes qui ont fui depuis le début de l'invasion. Donc, au-delà de l'échec à mobiliser, c'est aussi une fuite de cerveau et de personnes qui pourraient aider la Russie à se reconstruire, à même retrouver un semblant de vitalité étatique à la suite de ce conflit, quand tout ça sera terminé, qu'ils sont partis du pays.
Tout à fait, parce qu'en fait, de quitter la Russie par la frontière européenne, notamment par la Finlande, c'est difficile. Il nous faut un visa Schengen. Avec un visa Schengen, on a un statut de migrant touristique et tout, donc c'est plus difficile si on rentre de cette façon-là. Puis de dire, bon, maintenant que je suis à l'intérieur, je fais une demande de réfugié, il faut le faire d'une autre façon. Puis là, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on va être accepté. La frontière géorgienne, c'est saturé. La Géorgie est relativement saturée.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de gens qui vont passer par là pour aller, par exemple, en Turquie.
Mm.
Évidemment, la Géorgie supporte l'Ukraine. Il y a un certain sentiment russophobe, c'est-à-dire, la Géorgie, historiquement, pas la meilleure relation avec la Russie non plus. Donc, le Kazakhstan devient une bonne solution. La Mongolie aussi, parce que les vols sont encore pas trop chers.
C'est ça.
Puis, comme tu l'as dit, l'exode des cerveaux, c'est pas les plus pauvres, c'est pas les personnes âgées, c'est pas les personnes trop de régions, c'est les personnes des grands centres qui ont les moyens de sauver, de quitter. Mm. Donc, c'est l'élite économique, l'élite académique.
C'est
ces gens-là, finalement, que la Russie voulait retenir depuis les 30 dernières années, qu'elle perd encore une fois,
et alors que la population du pays est extrêmement vieillissante. Et la population extrêmement vieillissante, c'est la majorité russe. Ce ne sont pas les minorités ethniques. Ce qui nous amène à la question liée à la mobilisation et l'escalade en cours du fait de cette mobilisation. On voit une mobilisation fortement concentrée dans les régions à minorité ethnique, comme le Daghestan, comme la Bouriatie, qui est la région à majorité mongole. Toutes ces régions-là, beaucoup vont accuser un peu que cette mobilisation est en fait un nettoyage ethnique déguisé, mais ce sont aussi des personnes qui sont encore moins motivées que les Russes à vouloir aller au combat et qui, à terme, qui pourraient aussi provoquer énormément de problèmes pour la Russie à l'interne. Mais pour l'instant, c'est du problème retardé car on ne mobilise pas aussi les jeunes Russes comme il faut en grand nombre pour pouvoir aider au combat. Qu'est-ce que tu penses de tous ces éléments?
Ben évidemment, c'est ça, les minorités ethnoculturelles en Russie s'identifient 0-1 barre à l'État russe à cette guerre-là. Donc évidemment, on peut dire que c'est un moyen de peut-être les mettre au pas ou vraiment de dominer, d'assurer notre domination sur certaines régions qui ont à tendance plus sécessionniste, parce qu'on peut juste penser au Daghestan et à la Tchétchénie, comment ça a été difficile et meurtrier les garder au pas. Puis de garder dans la fédération. Il y a aussi peut-être cette idée-là que d'envoyer des moscovites slaves blancs, puis des gens de Saint-Pétersbourg slaves blancs, qui ont probablement des frères, des cousins, des cousines, conjoints, conjointes en Ukraine, c'est pas l'élément qui motive le plus. Si on prend une minorité bourriate du milieu de nulle part, ou on prend une minorité
tchétchène ou le Daghestan,
qui n'a aucun lien, il y a peut-être moyen dans l'idée russe de pouvoir les motiver à aller massacrer des Ukrainiens de façon plus facile.
Et surtout, l'exemple parfait pour la motivation, Kadyrov, on va prendre l'exemple de Kadyrov, qui ne vend pas ça comme guerre pour la Russie, mais comme un djihad contre des chrétiens orthodoxes. Donc à partir de là, c'est quand même assez drôle. Il est dominé par des chrétiens orthodoxes, Poutine et l'église orthodoxe russe, mais néanmoins, il vend ça pour aller faire la guerre à une église impie qu'il faut faire le djihad, celle qui est orthodoxe ukrainienne. Donc c'est aussi assez marrant le discours qui est utilisé pour mobiliser ces minorités.
Ouais, surtout qu'on a mis Kadyrov en place et son père il y a plusieurs années pour miner les risques de voir un djihad contre le reste de la Russie, puis de voir des attentats terroristes et des tensions entre la Russie orthodoxe et la Russie musulmane. Donc c'est un peu ironique d'utiliser le discours contraire pour motiver les troupes. C'est un problème qui va revenir à la maison.
Totalement.
Quand ces troupes-là reviennent, après ça ils vont pas seulement s'attaquer aux orthodoxes d'Ukraine. Donc
l'autre exemple de mobilisation, c'est qu'on voit en ce moment un peu la Biélorussie qui commence à s'activer. Qu'est-ce que tu penses de tous ces tracas qui se passent en Biélorussie? Parce que c'est quand même assez drôle de voir le laquais de Poutine, parce qu'on va l'appeler ainsi, Loukachenko, qui explique que l'Ukraine préparait une attaque, donc il mobilise l'armée, qu'elle va participer à des opérations proches de l'armée russe afin de participer à la guerre en Ukraine. Néanmoins, il y a très peu de mouvements de troupes, à part un vers l'ouest en direction de la frontière polonaise. Donc là aussi, est-ce que c'est plus de la provocation qu'une vraie entrée en guerre de l'Ukraine, de la Biélorussie en Ukraine?
Bah, évidemment, là, si on prend un point de vue de politique intérieure, Loukachenko a beaucoup plus à perdre d'augmenter les tensions dans sa population. Il est beaucoup moins en mesure de garder le contrôle sur sa population. On l'a vu dans les manifestations des dernières années. Il a eu besoin de l'armée russe et de l'aide du Kremlin. Vladimir Poutine, on peut argumenter que de plus en plus, c'est difficile pour lui de garder le pouvoir et puis de garder la population ou pas. Mais tout de même, là, la Russie a un appareil de répression, puis de menace de répression qui fait beaucoup plus peur à la population, puis contrôle beaucoup mieux que Loukachenko.
Totalement.
C'est visiblement pas très bon pour faire un calcul répression. Est-ce que j'en donne un peu? C'est juste, je frappe toujours trop fort. Les gens autour de moi ne posent ça.
Ouais.
La population répond plus fort. Donc, c'est pas nécessairement son avantage d'envoyer ses troupes et son appareil de répression mourir en Ukraine avec les troupes russes qui sont déjà en train de se faire décimer une après l'autre, au point qu'on envoie des jeunes plus jeunes que moi avec aucune expérience dans le meat grinder, comme on dit.
la chair à canon.
Exactement.
Ouais, et David aussi, l'autre question que je voulais te poser, c'est pour rester un peu sur l'aspect biélorusse, est-ce que ça serait pas le meilleur moment pour l'opposition biélorusse et même pour la population biélorusse à se mobiliser contre Loukachenko, quand on voit qu'une majorité des troupes russes stationnées en Biélorussie ont quitté vers le sud et l'est de l'Ukraine afin d'aider à la contre-offensive? Donc ça fait en plus sur un aspect, si on est la Russie, on voudrait retenter une offensive par le nord, donc depuis à partir du territoire biélorusse, ça serait peine perdue quand on sait que maintenant la frontière biélorusso-ukrainienne est l'une des plus fortifiées de la planète. Donc à partir de là, est-ce que ça serait le meilleur moment, étant donné que la Russie n'est pas vraiment là pour aider, pour que la population se soulève?
Ben évidemment, ça peut être vu comme une fenêtre d'opportunité, parce qu'on en parlait au début, on disait la Russie veut une guerre rapide et tout, parce qu'on avait quelques mois avant, des tensions au Kazakhstan, des tensions dans les pays d'Asie centrale, on avait des tensions avec l'Ukraine, des tensions au Bélarus, donc on s'est dit, si la Russie veut consolider son influence, son pouvoir là-bas, ce n'est pas le temps de s'empêtrer, puis de se prendre, de s'enliser en Ukraine. Puis effectivement, ça pourrait être une certaine fenêtre d'opportunité pour les opposants au régime de Loukachenko, de dire, bon, ben, la Russie n'enverra pas des troupes, comme ils sont occupés à mourir ailleurs. Ça pourrait être la même chose avec le Kazakhstan, avec d'autres pays qui demandent, surtout avec...
Mais on le voit avec le Kazakhstan déjà, un peu avec la séparation. Le Kazakhstan qui de plus en plus dit, on veut passer dans le monde occidental, à notre avantage et à l'avantage de la population du Kazakhstan. Donc à partir de là, c'est déjà quelque chose. Et le Kazakhstan a une minorité russe encore plus importante que la Biélorussie ou que l'Ukraine en pourcentage de population. Les minorités russes qui sont liées à l'ancienne URSS, et même à la colonisation russe qu'il y avait eu dans l'histoire de l'Asie centrale dans cette région du monde. Et le Kazakhstan, façon de parler, de plus en plus voit la Russie faible, donc s'en fout. Et ils y vont, ils se disent ouvertement, face à Poutine, on préfère plus prendre le pas du chemin occidental.
Ben oui, effectivement, toutes ces tensions-là, la question évidemment, c'est de savoir, malheureusement, est-ce que l'Europe veut du Kazakhstan? L'Europe ne voulait de l'Ukraine, mais sous ses conditions à elle.
Ouais.
Jusqu'à tout récemment, il aura fallu que les Ukrainiens meurent sous les balles des Russes pour que finalement l'Union européenne s'active et fasse quelque chose, puis décide de prendre ses responsabilités en politique étrangère. Évidemment, maintenant on parle aussi de la Géorgie.
Ouais.
La Géorgie, c'est pas fait. C'est vraiment pas fait. Son adhésion au monde européen et tout. Et non, donc si on sait c'est loin pour la Géorgie, ben attachez votre truc avec de la broche pour le Kazakhstan puis l'Asie centrale, surtout quand on parle de la Chine qui est encore plus près de ces régions-là.
Et la Chine qui veut profiter aussi de cette faiblesse russe pour placer un peu ses anciennes républiques d'Asie centrale dans son escarcelle, par l'intermédiaire de différents projets comme ces nouvelles routes de la soie. Donc à partir de là, c'est façon de parler, la foire à prendre pour les différents pays qui veulent profiter de cet affaiblissement russe.
Ben exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi la Chine fait rien, pourquoi la Chine n'aide pas.
C'est
parce que la Chine est occupée avec les nouvelles routes de la soie. La Chine est occupée à étendre son influence dans la mer de Chine méridionale. Elle est occupée avec les destroyers et puis avec les porte-avions américains qui passent entre Taïwan et la Chine continentale. Et puis ça, c'est à un certain niveau une opportunité d'avoir tout l'Occident concentré en Ukraine, concentré en Europe, pour dire, ben, si vous êtes occupé, nous, on va faire nos trucs, on va continuer à pousser notre influence. Puis c'est une des raisons pour lesquelles les États-Unis, bon, cherchent à s'engager, mais aussi à résoudre le conflit, ouais. L'arrêter le plus rapidement possible.
Pour pouvoir se reconcentrer sur le pivot sur l'Est.
Et voilà, on ne peut pas pivoter sur l'Asie si on est encore pris en ex-URSS.
Ouais. À partir de là, donc, David Dubé, toujours avec nous, chercheur en résidence à la chaire en Durand, doctorant à l'Université McGill. Pour terminer, pour les 5 dernières minutes de notre discussion, revenons un peu sur le pouvoir russe en ce moment. Donc, on discutait un peu rapidement d'un pouvoir russe affaibli qui s'enlise comme son armée en Ukraine, mais un pouvoir russe aussi où on voit de plus en plus d'affrontements entre les clans autour de Poutine, des clans plus pacifistes, des clans plus offensifs, des différents clans à l'intérieur même des services de sécurité, des arrestations en masse, des purges qui commencent, bien sûr aussi les gens qui décident de passer par la fenêtre, on ne sait pas pourquoi, en grand nombre depuis le début de la guerre, qui va expliquer, beaucoup de personnes vont un peu blaguer, faire des mimes un peu sur ces questions, je vous invite, chers auditeurs, à aller les voir sur internet, c'est quand même assez drôle. Mais pour revenir sur le pouvoir russe, c'est au-delà des insuccès sur le terrain, est-ce que la puissance de Poutine est véritablement affaiblie quand on voit les divers affrontements qu'il y a en ce moment?
Avant d'entrer dans ces détails-là, c'est assez comique, les mimes et les blagues, ouais. dont tu parles, parce que bon, je me rappelle pas d'avoir eu des balcons, des fenêtres si glissantes que ça quand j'étais en Russie en 2018 durant les élections. mais visiblement, si j'y retourne un jour, je vais faire attention.
Pareil à Saint-Pétersbourg, j'avais pu il y a quelques années aller à Saint-Pétersbourg pour un différent colloque et tout, c'était assez pareil, je me suis dit mais c'est pas aussi glissant, il y a pas de problème, normalement c'est tout lisse, c'est lisse certes, mais j'ai jamais eu de problème à me mettre proche du fenêtre, avoir peur pour ma vie.
Non, c'est la défenestration risque d'être un enjeu électoral des prochaines élections présidentielles, donc il va falloir faire attention avec oui. ça. Mais bon, blague à part, oui, y a effectivement, quand on pense à l'affaiblissement du ouais. pouvoir. Oui, ça peut créer. Poutine a de la difficulté quand même à contrôler une part de sa population, mais il y en a beaucoup qui, au lieu de décider de combattre ce pouvoir-là, parce que ça fait longtemps qu'on le fait, ça fait longtemps qu'on est démotivé, que ça fait mal un coup de matraque, ouais. 300 coups de matraque, il y a beaucoup de gens qui quittent en ce moment. Ça, c'est des militants anti-Poutine qui sont plus là pour combattre. Somme toute, ça ne veut pas dire qu'on perd complètement une fenêtre d'opportunité. Une guerre en Ukraine qui s'enlise, des élites un peu plus anti-Poutine, Vladimir Poutine qui a de la misère à calculer sa réponse, à savoir est-ce que je fais des concessions, est-ce que je fais de la répression, ça peut vraiment miner les capacités d'un dirigeant autocrate à finalement être en mesure de garder son régime. Ça peut ouvrir la porte à des contestations assez importantes pour le tasser ou emmener certaines réformes du pouvoir.
Et on voit une recherche un peu en ce moment de différents, une recherche de plus en plus active de coupables, mais en sanctifiant quand même Poutine sur le côté. Poutine n'est pas le responsable. Ce serait l'armée, les mobilisateurs qui se trompent, les médias occidentaux, les agents de l'étranger, le prix Nobel de la paix même, etc. Mais jamais Poutine qui est mis. Poutine même, on prie pour lui. L'exemple parfait, c'est la semaine dernière, l'homélie du patriarche de Russie, Kirill, qui est un ancien du FSB, chose assez drôle à dire, qui expliquait qu'il fallait prier pour la santé de Poutine et son succès continue en Ukraine. Donc à partir de là, c'est tout le monde est coupable, sauf Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une bonne position pour une société russe qui de plus en plus voit, malgré la propagande, que ça ne marche pas, que tout ne marche pas et que même ils sont en train de s'effondrer?
Évidemment, c'est une stratégie surtout pour arrêter de perdre l'appui de peut-être de cette minorité ou majorité là, de personnes qui n'utilisent que la télévision et la radio, c'est-à-dire majoritairement les gens qui sont plus vieux que mes parents, qui mettent à l'âge de la retraite. Donc, évidemment, c'est les gens qui ont connu l'Union soviétique, c'est les gens qui n'ont pas Internet, pas de cellulaire. Ces gens-là, on veut les garder un peu parce que ça permet de légitimer une certaine part du pouvoir, de peut-être créer un peu d'opposition à l'opposition. Ouais. Mais bon, c'est pas avec ça qu'on va aller rechercher les jeunes, les professionnels, les gens critiques. Puis on voit même évidemment des personnes peut-être dans les 35 à 55 ans qui supportaient le régime en se disant bon, historiquement, ils nous ont aidés à nous développer économiquement, même si c'était autoritaire. Maintenant, ce compromis-là ne fonctionne plus.
C'est
déjà depuis 10 ans. Puis en plus, on essaie de mousser des mensonges. Puis on voit que nos enfants s'en vont au front. Des fois, ne reviennent pas. Donc c'est vraiment une nouvelle tendance. En fait, c'est du jamais vu dans cette nouvelle génération de Russes, en fait, on n'a jamais connu ce genre de conflit-là de cette envergure-là. On n'a jamais eu à payer la facture humaine, économique et sociale, finalement, d'avoir s'impliquer comme ça dans un conflit.
Et donc, la dernière question, c'est à quel niveau, ou plutôt à quel moment, cette mobilisation, et plutôt l'échec qui commence à apparaître de cette mobilisation, surtout quand on voit donc, le manque de soutien, le manque d'équipement, le manque de moyens financiers, le manque de moyens militaires, la réutilisation d'armes qui, normalement, ont été décommissionnées il y a plus de 30 ou 40 ans, juste parce que l'industrie de l'armement ne suit même pas pour pouvoir équiper les soldats et équiper les mobilisés. Donc, à quel moment tu penses que tous ces éléments-là pourraient avoir un effet qui serait vraiment pleinement contre-productif et mener peut-être à Poutine qui rechercherait des concessions et arrêterait de faire le bully en disant que si vous m'attaquez ou si vous me touchez, c'est bombe nucléaire?
Bah, évidemment, là, je pense pas qu'il y ait un moment où on va se rendre à avoir des troupes. Il faut se rappeler, la conscription en ce moment, il y a des gens plus âgés, mais bon, c'est quand même des gens qui sont pas entraînés. Mm. Sinon, c'est des gens fraîchement sortis de l'école secondaire, qui rentrent à l'université. Ils ont 6, 7, 8 ans de moins que moi. Des fois, on n'a pas d'équipement pour eux. Quand on en a, ils savent pas comment l'utiliser. Ils ont pas de morale, pas de motivation, parce que la plupart sont informés, voient ce qui se passe à l'extérieur aussi, voient que finalement, ils sont pas là pour libérer, ils sont là pour massacrer, pour occuper.
C'est ça.
On veut pas d'eux. L'État veut pas vraiment d'eux non plus. Ils veulent juste utiliser leurs bras, leur capacité humaine à tirer d'autres êtres humains.
Ouais.
Donc, c'est une certaine justification, c'est-à-dire que si ça va jamais bien,
totalement.
Pour la Russie, ça justifie une accélération puis une gradation des tensions vers des bombardements n'importe où en Ukraine, des bombardements puis sur des populations civiles, puis une augmentation de la violence de la part du Kremlin à l'endroit de l'Ukraine.
Et à la fin, en plus, ça fera que la manière aussi qu'ils vendent ce genre d'attaque sur des populations étrangères qui pourraient peut-être soutenir après un peu plus la Russie que le monde occidental vu comme le grand Satan, c'est aussi contre-productif sur cet aspect-là de propagande et de diffusion des idées de soft power à l'international, où le seul moyen ensuite de pouvoir être un peu présent, c'est d'utiliser Wagner pour créer des coups d'État, comme on le voit en Afrique, au Burkina Faso, dans les 2-3 dernières semaines, où le coup d'État semble ne peut moins en moins tenir, étant donné qu'il y a ce genre de problème. Donc ça fait que ça devient même assez problématique, au-delà de vendre la réponse en Russie, la vendre même à l'étranger. Donc pour conclure, assez rapidement, 30 secondes, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les prochaines semaines?
Probablement, j'ai pas de boule de cristal, mais probablement une intensification des conflits. On a vu la Russie promettre une augmentation de la violence, puis une augmentation de la réponse russe face au bombardement du pont de Kerch, et puis à l'offensive plus agressive, plus rapide de l'Ukraine. Ça s'est traduit dans les derniers jours par des bombardements sur des positions civiles, beaucoup plus de violence, un comportement un peu erratique finalement de la part de la Russie. Ça augure nécessairement pas bien, mais ça va demander un concert entre l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, mettons l'Occident et l'Ukraine, pour donner une réponse conjointe qui est effective, qui va permettre d'éviter le plus de morts,
plus d'aide, de population. Plus d'aide, peut-être plus de sanctions, et donc une continuation de qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais une escalade qui doit malheureusement répondre à l'escalade. Et espérons que ça dure le moins longtemps possible. Merci beaucoup David Dubé d'avoir été avec nous ce midi, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je rappelle que tu es chercheur en résidence à la chaire Raoul d'Endurance à l'Observatoire sur les États-Unis, tu es étudiant en doctorat à McGill, et que tu es donc spécialiste sur toutes ces questions de la Russie, des rapports entre la Russie et l'Occident. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir te recevoir à l'émission. Merci beaucoup, David.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à toi. C'est tout pour ce nouveau numéro de l'émission Le Monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré aux midterms. À la semaine prochaine.